Nusirwanji Tata founded the Tata Group in 1868. He committed us to improving the quality.
Les Tata, c'est l'histoire d'une incroyable série de dirigeants visionnaires au sein d'une même grande famille. Aujourd'hui, difficile de ne pas en entendre parler en Inde. Christophe Emery est professeur à l'INALCO.
Moi, j'ai fait mon premier séjour en Inde en 1980. J'entendais parler de Tata en 80 et j'en entends toujours parler en 2019. Ça va des biens de consommation courante aux services informatiques, en passant par les aciéries et le textile.
Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle Tata est incontournable. Jules Naudet, sociologue à l'École des hautes études en sciences sociales.
Il incarne un petit peu toutes les étapes du développement du capitalisme indien, parce que c'est un des rares groupes qui persiste aujourd'hui en peloton de tête de la place boursière de Bombay, en termes de capitalisation boursière, qui a été créée avant la période de l'indépendance.
Tout commence en 1868, quand le premier des Tata, Jamsetji, se lance dans l'industrie textile. Il a 29 ans et une idée, défier le colonisateur britannique. À sa mort, en 1904, le groupe est implanté dans la sidérurgie et dans le textile. Les bases de l'empire d'aujourd'hui sont posées. Mais s'il doit sa renommée à sa longévité, le groupe le doit aussi à son implantation internationale. Christophe Emery.
Ça a commencé, comme tous les grands groupes familiaux indiens, plutôt dans les années 60, avec des investissements ou du commerce avec l'Asie du Sud-Est et avec l'Afrique.
He changed transportation in India forever.
Mais c'est en 1991, au moment où l'économie indienne se libéralise, que le groupe Tata prend véritablement une dimension mondiale. Le dirigeant mythique de l'entreprise, celui qu'on appelait par ses initiales, JRD, né en France, élevé en France, passionné d'aviation, cède la place à Ratan Tata, Jules Naudet.
Ratan Tata prend la tête du groupe et est confronté donc à l'impératif de modernisation du groupe, d'entrée dans une nouvelle ère économique, ce qui va réussir avec brio en tout cas, parce que dans le sens où les profits ils ont dû être multipliés par 50 pendant son mandat 91 à 2012.
Aujourd'hui, Tata, c'est 28 groupes cotés en bourse et 95 sociétés, si on inclut les filiales. Mais si les Tata ont réussi à incarner l'Inde des affaires, c'est aussi grâce à leur réputation. Ils sont issus d'une toute petite communauté, les Parsis, de religion zoroastrienne, pour lesquels la philanthropie est un devoir. Christophe Emery.
Il y a des centaines de milliers de personnes en Inde qui n'auraient pas fait des sans Tata, qui n'aurait pas été soigné sans Tata, qui n'aurait pas évidemment pas d'emploi sans Tata, parce que ça fait partie depuis toujours des traditions de cette entreprise de financer des hôpitaux, de financer de la recherche scientifique, de financer l'enseignement.
Ces distributions massives d'argent sont dans l'ADN du groupe. Au sommet de son organisation, un trust est chargé de la répartition des fonds. Jules Naudet.
Il y a une chaîne où le profit remonte les différentes compagnies, qu'elles soient cotées en bourse ou pas, vers Tata Sons Limited, qui fait ensuite remonter à nouveau les profits au dernier étage, qui est celui de Tata Trust, qui là utilise ses profits pour toutes ses activités philanthropiques.
Pour la première fois dans toute l'histoire du groupe, celui-ci n'est plus aujourd'hui dirigé par un membre de la famille Tata. Natarajan Chandrasekaran n'est même pas membre de la minorité Parsi.